Et voilà, prédication. Je vous emmène encore ce matin dans le pays d'Outz et dans l'histoire de cet homme qui s'appelait Job. Job, toute une histoire exceptionnelle, un chef-d'œuvre de littérature, disait Victor Hugo. Et dimanche dernier, nous avons parlé, essayé de comprendre cette histoire et surtout d'écouter la voix de Job, ce qu'il avait à nous dire, une voix brisée, rocailleuse, mais encore vigoureuse, une voix qui crie non pas dans le désert, mais sur un tas de cendres, car il est malade, il a tout perdu, et qui nous parle aujourd'hui encore de la souffrance d'un homme qu'il ne mérite pas, une souffrance injustifiée, pour laquelle il n'a rien fait, et qui crie, donc cet homme qui crie son incompréhension, sa révolte, une voix difficile à suivre parfois, que veut dire Job, mais avec des intuitions absolument incroyables. Dans Job 19, je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant. Vous vous rendez compte, il y a 3500 ans, à peu près, 1500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Job a cette intuition que son Rédempteur, son Sauveur, est vivant. Et puis, cette intuition aussi au chapitre 9, où il dit, n'y a-t-il pas un arbitre, un médiateur entre Dieu et moi qui pourrait poser la main sur nous deux, sur Dieu et sur moi, qui nous réconcilierait, un arbitre, encore une intuition fantastique de la part de Job. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter une autre voix, la voix des amis de Job. Ils sont venus de différents endroits, ils ont entendu parler de la catastrophe, des catastrophes qui arrivent à Job, et ils l'ont accompagné dans le silence pendant les 7 premiers jours. Ils, comme de vrais amis, ils sont venus pour le plaindre, nous dit le texte, et pour le consoler, et on va le lire ensemble. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays, c'était Éliphaz, Bildad et Sophar. Ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Il était dans un sale état, Job. Et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Puis ils restèrent là, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car ils voyaient bien combien sa souffrance était grande. Ils sont là, comme de vrais amis, pleins de compassion, pleins d'empathie, pleins de sympathie, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui caractérise les vrais amis. Le problème, c'est que quand ils commencent à parler, comme souvent, on ressent tout de suite comme un malaise. Les amis de Job ne semblent pas très à l'aise avec la souffrance de leur ami Job. Et leurs paroles vont être maladroites, même culpabilisantes, jusqu'à même être humiliantes et agressives. Regardez quelques morceaux choisis. Oui, entre le chapitre 2 et le chapitre 4, après le silence, les amis vont changer de ton. Et voilà les morceaux choisis, les encouragements, entre guillemets. « Pour qui tu te prends ? Tu te crois né avant tout le monde ?» dit Éliphaz à Job. « Il ne suffit pas de parler pour avoir raison, » dit Sophar à Job, qui est dans la détresse absolue. Hein. « Maintenant que cela t'arrive, tu es découragé et tu perds les pédales ?» dit Éliphaz encore une fois. Et puis là, le pompon, je trouve, Bildad, « Quand vas-tu arrêter de nous prendre pour des abrutis ?» Parce que tu souffres, il faudrait que le monde s'arrête. Question encouragement, on peut faire mieux, n'est-ce pas? Par rapport à ce pauvre Job, ils parlent beaucoup, mais il n'y a rien dans leurs paroles qui pourrait aider Job. Job, d'ailleurs, le leur dit et remet en question leur amitié. Vous, des amis, mais vous plaisantez. L'homme désespéré, dit-il, a droit à de la compassion de la part d'un ami, oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant. Ça, c'est intéressant. Et Job 19, « Jusqu'à quand allez-vous me faire souffrir ? Jusqu'à quand allez-vous me détruire par vos paroles ?» Les amis de Job ne font pas leur job d'amis. Et effectivement, à les entendre, on peut se poser la question, quel genre d'amis sont-ils ? Des amis qui sont incapables de soutenir un homme qui a tout perdu, il n'y a aucune de leurs paroles qui puisse lui faire du bien. Il y a une pièce de théâtre qui s'intitule, et vous l'avez sur l'écran, « La torture par les amis de Job » ou « La torture par les amis ». C'est de la torture. Comment être possible, comment est-il possible d'être un ami si minable que Éliphaz, Sophar et Bildad? Mais je me dis que celui qui a toujours été un ami exemplaire leur jette la première pierre. Ai-je toujours été un bon ami par rapport à ceux qui sont dans la souffrance? Est-ce que j'ai toujours été un ami qui aime en tout temps, comme le dit Proverbe 17:17, je crois, ouais, un ami aime en tout temps et dans la détresse, il se montre un frère. Est-ce que j'ai toujours été cet ami-là? Non, pas vraiment. En tout cas, c'est une question que l'on pourrait se poser. Et donc, j'ai intitulé, vous l'avez vu, ce message, « Les vrais faux amis de Job ». C'est des vrais faux amis, ce n'est pas des vrais amis. Et ça nous interroge sur notre capacité à aider et à aimer l'autre dans la souffrance. On sait que ce n'est pas facile d'aider quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans la douleur. Selon l'expression consacrée dans les années 80-90, en tout cas c'était le cas en Belgique, on disait souvent devant un grand problème, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être un ami de quelqu'un qui est dans la détresse. Parce que, tout simplement, parce que la souffrance de l'autre nous renvoie à la nôtre. Et nous renvoie à notre fragilité, et nous renvoie aussi à nos peurs. Et je m'inspire du livre de Frédéric de Coninghe sur Job, et qui débusque des peurs chez les amis de Job. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et la première peur des amis de Job, c'est la peur de ne pas être à la hauteur dans cette situation de souffrance de leur ami Job. Et on peut la voir dans cette tendance qu'ils ont d'invoquer d'autres qu'eux-mêmes pour parler. Ils se protègent en invoquant les anciens. Ils ne se risquent pas eux-mêmes, parce que c'est risqué d'aider quelqu'un et d'aimer quelqu'un dans la souffrance, mais ils citent des autorités reconnues. Regardez ça. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin la sagesse des pères. C'est les amis qui disent ça. Les anciens t'instruiront et ils te parleront. C'est les anciens, pas nous. Il y a aussi parmi nous des anciens, des vieillards plus âgés que ton père. Je vais te dire ce que j'ai découvert, l'enseignement des sages qu'ils tenaient de leur père et qu'ils ont transmis sans rien cacher. Les amis de Job n'osent pas parler d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, ils cherchent la sécurité en faisant appel à des auteurs autorisés, qui ont autorité pour parler des phrases polies, par les siècles de sagesse. Et on trouve, pour cette peur de ne pas être à la hauteur, un autre indice, qui est dans leurs tentatives répétées et surprenantes d'abaisser Job. Comme si quelqu'un qui avait tout perdu pouvait être une menace pour eux. Mais Job n'est pas une menace, mais ils ont le sentiment dans cette situation de souffrance de ne pas être à la hauteur, et donc ils vont rabaisser Job pour prendre, eux, de la hauteur, parce qu'ils ont peur de manquer de cette hauteur et de perdre de cette hauteur. Et donc ils vont, c'est pour ça que leurs paroles sont si dures et parfois humiliantes. Un sage comme toi n'a pas le droit de donner des réponses aussi peu consistantes et de se remplir comme cela devant d'Est et de Sirocco. Un sage comme toi, on rabaisse Job. Tu te prends pour Adam, né avant tout le monde? Aurais-tu vu le jour plutôt que les collines? Que peux-tu donc savoir que nous ne sachions pas et qu'aurais-tu compris qui nous soit étranger? Te crois-tu au-dessus de ces consolations que Dieu te propose par nos douces paroles? On rabaisse Job. Des phrases pour faire mal, pour abaisser. Et ce n'est pas de la haine, c'est de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est d'ailleurs souvent la peur qui nous motive dans les relations humaines. On le voit tous les jours, et je le vois aussi dans ma vie. Devant la souffrance d'un autre, on a peur de ne pas être à la hauteur de l'événement. Alors on dit des choses qui tentent de nous rehausser aux dépens de celui qui souffre. Alors, je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais le fait de passer en revue les erreurs des amis de Job, on a comme un effet boomerang. Parler de leur peur pourrait peut-être renforcer en nous la peur de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être à la hauteur, justement. Mais Dieu ne nous demande pas de ne jamais faire la moindre erreur. Il nous demande de nous accepter comme des êtres faillibles et de risquer notre propre parole. Celle que nous seuls pouvons prononcer, celle qui nous constitue comme unique et irremplaçable. Risquer une parole personnelle, mais pas une parole systématique, pas une parole sécuritaire motivée par la peur, une parole personnelle. Rencontrer une personne qui souffre est toujours une aventure où nous pouvons faire des erreurs, mais l'essentiel est d'être là et de prendre le risque d'une parole bien à nous. Mieux vaut souvent une parole un peu à côté de la plaque que le simple énoncé d'une loi générale qui serait sans secours pour l'autre. Devant la peur de ne pas être à la hauteur, risquer une parole personnelle. La deuxième peur que l'on peut détecter chez les amis de Job, c'est la peur des émotions. Les amis de Job sont effrayés par le déluge et la passion qui vient de Job. Déluge de paroles, dit Sophar. Une tempête emporte tes paroles, dit Bildad. Tu te laisses emporter par ton cœur, dit Eliphaz. Quand donc ferez-vous taire tout ce flot de paroles, dit Bildad. Et toi, Job, tu te déchires dans ta colère. Tu te déchires grave dans ta colère. Et ça fait peur, un gars qui se déchire grave dans sa colère. Et on a peur d'être débordé par ce flot d'émotions qui nous arrive. Et c'est vrai que les personnes dans la souffrance ça provoque des débordements incontrôlables au niveau des émotions. Et la parole qui souffre est toujours un petit peu hors système. Elle remet en cause l'ordre un peu établi. Et les amis de Job, un peu plus loin, lui reprochent de détruire tout respect. Tu détruis tout respect. Tu détruis toute religiosité, même, on pourrait dire. Toute piété, toute religion. L'homme qui souffre, il pousse des cris, il pousse des protestations et il n'est jamais dans le socialement correct ni même dans le religieusement correct et ça dérange. Et les amis de Job préféraient une parole lisse et un long fleuve tranquille alors qu'ils ont un flot tempétueux qui lui arrive dessus, ils sont face à un torrent et ça les ébranle en tant que personne parce que ça réveille peut-être des émotions en eux aussi. Qu'ils cherchent à enfouir, qui sont cachés depuis longtemps. Et rencontrer une personne qui souffre, ça nous fait peur pour les mêmes raisons. La souffrance d'un autre peut éveiller des émotions que l'on pensait enfouies à jamais. Mais ce n'est pas une raison pour se blinder contre les émotions comme le font les amis de Job. Au contraire, il faut pouvoir leur faire de la place au fur et à mesure qu'elles surviennent, ces émotions. Et cela relève d'un acte de confiance devant la peur d'être débordé par les émotions, savoir faire confiance. Confiance en l'autre qui a des ressources et qui va se relever et qui va se trouver un chemin. Et confiance en Dieu qui ne nous abandonne pas et qui nous donne au fur et à mesure les ressources pour passer ce moment émotionnellement difficile. Et on est plusieurs ici à avoir accompagné Manuela, qui est décédée il y a 2 mois, je pense. Et ça a été difficile ces derniers moments. Et on était pris avec ses émotions. Elle avait 59 ans. Devant la peur des émotions et des débordements, savoir faire confiance. La troisième peur, c'est la peur de l'incapacité à changer les choses, peur de son impuissance à changer les choses. Et les amis de Job se sentent doublement impuissants parce que non seulement ils ne peuvent pas changer les choses, mais Job résiste à tout ce qu'ils lui disent. Et alors ils insistent, « Vois cela, nous l'avons étudié à fond, il en est ainsi, écoute et fais-en ton profit. » Mais Job n'écoute pas. Alors Eliphaz reprend, « Je vais te montrer la voie, écoute-moi. » Et on peut imaginer Eliphaz hausser le ton, « Écoute-moi !» et secouer Job sur son tas de cendres. Alors il y a une fumée de cendres qui le secoue parce qu'il en a marre, il n'écoute pas. Et Eliphaz se sent impuissant. c'est la peur de son incapacité à changer les choses qui le pousse à insister comme ça. Toute sa frustration. Et nous avons cette frustration aussi quand on s'approche de la souffrance d'un autre. Non seulement nous n'avons pas de prise sur ce qui lui arrive, nous sommes incapables de changer les choses, mais en plus, cette personne n'écoute pas nos conseils. Alors que nous savons ce qu'il faut faire ou comment elle doit réagir, que nous avons toutes les solutions, les explications, les conclusions, alors que nous avons tout ça, l'autre s'en mêle, ne veut pas s'en sortir, s'enferme dans son problème. C'est tellement frustrant pour ceux qui savent, qui ont les solutions. Mais pour peu qu'on ait été à un moment donné de l'autre côté de la barrière, on sait ce que valent ces conseils bien intentionnés, parce qu'ils sont bien intentionnés. Mais bien souvent, même bien intentionnés, ils masquent l'angoisse de celui qui les donne, la peur de son incapacité. Vous avez sans doute remarqué, ou peut-être pas, mais je le propose, mais que lorsque quelqu'un a un problème, tout le monde le presse d'en sortir. « Tu vas bien ? Comment tu vas ? Tu vas bien ? Ça va mieux ?» Et on espère un oui, comme ça, on est, pas débarrassé, mais un peu soulagé, parce qu'on se sent tellement incapable de changer les choses. Et puis si la personne nous répond « Alors, ben non, ça va pas mieux », alors on lui offre très vite une solution, ou une explication, un conseil. Mais celui qui est en souffrance n'a pas besoin d'être assommé par des réponses ou par des solutions toutes faites. Il a surtout besoin qu'on partage avec lui ses questions. Qu'on partage les questions avec lui. Il a besoin de savoir que les questions qu'il se pose dans la souffrance sont légitimes. Et qu'on est avec lui à se les poser. Et qu'il ne déraille pas en se posant les questions. C'est important ça. Et c'est en posant ensemble les questions entre amis que celui qui est en souffrance va lui-même trouver les réponses, ou du moins quelques réponses. Devant la peur de notre impuissance, là aussi faire confiance qu'en partageant les interrogations de l'autre, il trouvera lui-même quelques réponses. C'est encore une question de confiance. Être un ami de celui qui souffre nous renvoie à nos peurs. Et il faut pouvoir faire face à ces peurs. Mais je me disais que pour la peur, il y a toujours cette parole exceptionnelle de 1 Jean 4, 18. Non ? 1 Jean 4, 18. Personne. L'amour parfait bannit la crainte. Entre la crainte, la phobos en grec qui a donné phobie, et l'agapé, l'amour de Dieu, il y a comme une sorte d'exclusion, comme deux aimants de la même polarité qui se repoussent l'un l'autre. L'amour parfait bannit, expulse la crainte. L'amour de Dieu, évidemment. L'amour que Dieu a pour nous, et comme l'a dit Daddy tout à l'heure, qu'il manifeste en Jésus-Christ de manière parfaite, qu'il s'est donné pour nous par amour, et je peux vivre dans cet amour sans peur de l'avenir, sans peur du qu'en dira-t-on, sans peur d'avoir raté ma vie ou de rater ma vie. Non, je suis dans son amour, en sécurité, ma vie est cachée en lui, j'ai cette nouvelle identité en lui. L'amour de Dieu pour moi, mais aussi l'amour de Dieu, l'amour que Dieu place dans mon cœur, que Dieu place dans ma vie, et pour autant qu'on le laisse prendre toute sa place, il va diffuser cet amour en nous, autour de nous, dans nos relations, et va balayer les peurs. Parce que j'aime véritablement cet ami qui passe un moment difficile, je vais chasser mes peurs et m'engager à ses côtés comme le chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, le chevalier de l'amour. Oui, l'amour de Dieu bannit réellement toutes les craintes que je peux avoir devant celui qui souffre et qui nous remet en question. L'amour est plus fort que cette remise en question ou que ce flot tumultueux des émotions. L'amour parfait bannit la crainte. Alors je conclus rapidement. Oui. Et par du pratique. Et je vous transmets deux conseils pour aider la personne en souffrance qui viennent de Daniel Pujol. Tout à l'heure, j'ai cité Frédéric de Coninck. J'ai oublié de dire que c'est lui qui sera l'orateur à notre synode au mois de mai à l'Ascension à la Costette. Frédéric de Coninck. Là, je cite Daniel Pujol, qui est bien connu. Ils sont deux frères à écumer les églises de France et de Navarre. Daniel Pujol, lui, s'est spécialisé dans la psychothérapie, mais biblique et chrétienne, et c'est dans son livre « Pratiquer et vivre la relation d'aide », rien d'exceptionnel, mais qui vaut la peine d'être rappelé. Et le premier conseil qu'il donne à ceux qui désirent aider ou qui sont tout simplement proches d'une personne en souffrance, c'est d'être simplement une présence aimante. Simplement être là, parfois en silence, parfois en risquant une parole personnelle, mais être présent en aimant la personne. La personne en crise a besoin de notre écoute, de notre compréhension, de notre amour. Et l'amour serait l'ingrédient essentiel de la relation. Mais l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une action volontaire de votre part, de notre part. Et la personne prendra conscience que vous l'aimez en voyant comment vous vous engagez auprès d'elle, comment vous prenez des risques auprès d'elle, en voyant le risque que vous prenez à vous occuper d'elle. Elle verra cet amour, elle le ressentira, et elle pourra s'y appuyer. Et c'est ça de l'amour, pouvoir prendre des risques. Et puis, deuxième conseil, favoriser la reconstruction. Et pour cela, Pujol, il prend deux images. Parce que la personne, d'abord, s'imagine comme étant un puzzle auquel il manque des pièces. Un puzzle et un puzzle auquel il manque des pièces n'est pas digne d'être accroché sur le mur, ni d'être encadré. Et la personne qui souffre d'être un puzzle sans toutes les pièces estime que sa vie est irrémédiablement gâchée parce qu'elle se fixe sur toutes les pièces manquantes de son puzzle. Il me manque tout ça. Et je ne suis pas digne d'être exposé. Mais il y aurait une autre façon de voir sa vie pour le souffrant, de la voir non pas comme un puzzle, mais comme un jeu de l'ego. Où l'on construit quelque chose avec ce que l'on a. Les possibilités de recréation sont infinies. Et c'est à la personne elle-même de reconstruire, de se reconstruire. Mais les proches peuvent aider à la reconstruction en aidant la personne qui souffre à relire sa vie, à trouver non pas des réponses toutes faites au pourquoi de la souffrance, mais en partageant avec elle des idées de reconstruction. Non pas un puzzle où on se focalise sur les pièces manquantes, mais un Lego avec lequel on se reconstruit pièce après pièce. Et le proche, il faut bien le dire, le proche n'est pas un sauveur. Et c'est souvent un syndrome chez les chrétiens et puis chez tout le monde un peu, se prendre parfois pour le sauveur, parfois pour le persécuteur, mais parfois pour la victime, mais souvent pour le sauveur. Et Pujol insiste pour dire que nous ne sommes pas des sauveurs, mais des passeurs. Des passeurs de pièces de l'ego, des passeurs de pièces de reconstruction de la vie pour que finalement la personne en souffrance puisse se réconcilier avec son histoire. Moi, j'aime bien cette idée de passeur. Pas sauveur. Je passe simplement ce que je peux et tu prends ce que tu veux. Mais ensemble, on travaille à ta reconstruction. Alors, les amis de Job, Eliphaz, Bildad, et Sophar, ça y est, je les connais par cœur, n'ont pas été de bons amis. Ils n'ont pas été de bons passeurs de l'ego. Et à la fin de l'histoire de Job, Dieu les reprend, ses amis, ses vrais faux amis, pour leur manque de sensibilité et pour leur manque de droiture. Quand le Seigneur eut fini de parler avec Job, il dit à Eliphaz, « Tu as provoqué mon indignation ainsi que tes deux amis. Contrairement à mon serviteur Job, en effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi. » Donc il les reprend. Mais il dit après, mon serviteur Job priera pour vous et j'accueillerai sa prière avec bienveillance. Et j'aime bien cette dernière parole. Parce que Job, Dieu dit que Job va prier pour eux et il va le faire. Et ça termine avec la prière, ça termine avec le pardon des vrais faux amis, ça termine avec la grâce de Dieu. Et en fait, toute cette histoire de Job, c'est une histoire de grâce. Pour les vrais faux amis, et puis pour Job aussi, et également pour nous qui sommes sous sa grâce. Amen.